7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, pour se parler chaque jour du nord au sud. Et comme chaque vendredi, sujet éducation, nous parlons aujourd'hui des châtiments corporels à l'école. Ils sont interdits par la loi dans de nombreux pays et pourtant pratiqués par les maîtres. Et ailleurs, la loi peut être floue, mais les écoles les proscrivent. Voilà, beaucoup de situations très différentes. En tout cas, à lire vos très nombreux messages sur les réseaux sociaux, la chicotte et autres coups continuent d'alimenter les débats, notamment sur le continent africain pour ce qui est de la langue française, ainsi que dans des pays comme, on va dire, des pays où les conditions d'enseignement sont difficiles. Je pense par exemple au sous-continent indien, si on avait des débats en langue française dans ces pays-là. Certains enseignants sont convaincus que l'autorité et les coups sont indissociables pour se faire respecter, mais avec quelles conséquences sur les enfants à long terme? Et puis, comment enseigner autrement si on cherche à faire autrement? On va en discuter avec vous, bien sûr, les voisins et les voisines, et puis notre invité, bonjour Ferdinand.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue camerounais, vous êtes fondateur de l'association Afrique Conseil qui aide les familles en France à cheval sur deux cultures, et vous êtes d'ailleurs souvent en mission en Afrique centrale et en Afrique sahélienne pour former des éducateurs, des psychologues. Et bien évidemment, je retourne vers vous les voisins et les voisines, appelez-nous si vous êtes enseignant, ancien élève ou parent, dites-nous aujourd'hui ce qui se passe dans l'école de vos enfants ou dans votre pays. Il faut nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. N'oubliez pas de laisser vos numéros de téléphone aussi sur la page Facebook. Je vous lis quelques messages postés sur Facebook sur lesquels vous pourrez bien sûr réagir, Ferdinand Ezembe. David est à San Pedro en Côte d'Ivoire. La chicotte est un sensibilisateur qui permet à l'enseignant de mettre de l'ordre en classe. Son utilisation permet ensuite de motiver les élèves en les amenant à faire moins d'erreurs au cours des exercices. Et aujourd'hui, son interdiction a rendu nos élèves de plus en plus nuls. Quand on n'a plus d'autorité devant son élève, je me demande ce que nous devenons. Elliot, qui est au Cameroun, totalement pour les châtiments corporels. Les enfants n'ont plus de limites. La religion nous enseignait la crainte de Dieu à la catéchèse, où nous demandait d'être des enfants serviables, de respecter les aînés. Et la chicotte, c'était le seul moyen de comprendre qu'on avait fait une bêtise et qu'il ne fallait pas recommencer. Aujourd'hui, quels sont les modèles des enfants? Ils n'ont plus peur de rien, nous dit Elliot. Maintenant, l'enfant te dit qu'il a des droits. Mohamed à Conakry, nos vieux ont ce proverbe à la bouche. Un enfant qui manque d'oreilles, c'est sur son dos qu'il entend les conseils. Maxime à Ouagadougou nous dit, moi, mon grand frère a abandonné l'école à cause des châtiments corporels. Toute la journée, le maître leur infligeait des coups de cravache, que ce soit pour des retards d'une minute, des bavardages, des fautes d'orthographe grammaticale ou une faible note. Je vous lis aussi le message de Jocelyne à Goma. Il y a pas un mois, dans ma ville, donc à l'est de la RDC, une élève de 16 ans a été battue par le directeur des études et a rendu l'âme sur le champ. Le châtiment corporel ne corrige pas, mais détruit, nous dit Jocelyne. Et évidemment, elle fait allusion, ce qui a été traité sur RFI et d'autres médias, à cette victime de 16 ans qui a entraîné d'ailleurs des émeutes lycéennes et la fermeture de toutes les écoles pendant plusieurs jours. Habibatou est à Dakar, au Sénégal. Elle nous dit, moi je suis enseignante, je pense que nous devons bannir le châtiment corporel. Frapper un enfant prouve notre incapacité à le gérer. Voilà, ça suscite beaucoup de discussions, beaucoup de questions. Je vous rappelle notre numéro de téléphone. Il ne faut pas attendre la fin de l'émission avant de nous téléphoner, hein, sinon ensuite vous êtes déçus. 33 1 84 22 71 71. Ferdinand Ezembe, comment vous réagissez à ce que je viens de relayer des réactions sur les réseaux sociaux?
Oui, alors je pense d'abord que l'apprentissage ne passe pas par la peur. Celui qui vient pour apprendre, il faut qu'il y ait du plaisir. Alors, beaucoup de personnes font l'éloge effectivement de la chicotte parce qu'ils ont eux-mêmes été élevés comme ça. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est le nombre de personnes et d'enfants qui sont en décrochage scolaire à cause des violences à l'intérieur du système scolaire. Donc, pour qu'un enfant s'épanouisse, il apprend par le plaisir et moins par la peur. Par la peur, c'est une contrainte, il ne développe pas ses capacités. Et donc, c'est pas parce qu'on va taper sur un enfant qu'il sera plus intelligent. Il faut qu'il développe du plaisir. Et moi, j'étais élevé en Afrique, dans des écoles où il y avait effectivement de la chicotte, mais on prenait plus de plaisir avec des enseignants qui nous aimaient et qui nous transmettaient des choses en riant, et pas en nous tapant dessus.
Alors, il y a des enseignants qui vont vous dire, les enfants qui décrochent, c'est parce qu'ils sont mauvais. pas parce qu'ils sont battus.
Les enfants ont peur du maître et il y a un témoignage sur justement cet enfant qui a décroché. On n'a pas beaucoup de statistiques, mais si on regardait le taux d'échec scolaire dû au fait que les enfants ont peur d'apprendre, ils ont peur de l'échec et qu'on ne leur prend pas dans leur vraie position, d'enfants d'abord, c'est ça qui traumatise et qui empêche pour la plupart des enfants de bien étudier.
Aujourd'hui, il y a une vraie pression des organisations internationales pour faire interdire les châtiments à l'école.
Oui, alors, elles ont raison, parce que on regarde quand c'est l'aspect, moi je parle de culture africaine, elles ont aussi le droit de protéger les enfants. Et dans beaucoup de cultures africaines, il y a cette intervention des adultes qu'il ne faut pas taper sur un enfant n'importe comment, et surtout gratuitement. Donc on retient que le
vous
côté
dire,
répressif,
dans la communauté, quand les parents vont trop loin, c'est ça que vous faites à Lyon.
Oui. Les sociétés africaines ont développé aussi de la protection des enfants, et ça on oublie souvent ce côté de choses pour mettre en avant le côté répressif.
Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un premier auditeur pour discuter avec vous, Ferdinand Ezembe, des châtiments corporels à l'école. C'est Khalifa, qui est à Nioro du Sahel. C'est à 240 km au nord-est de Kayes, au Mali. Bonjour Khalifa, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Khalifa, vous êtes un jeune enseignant, hein, vous avez 27 ans, vous êtes enseignant dans une école privée. Alors expliquez-nous un peu votre position et vos pratiques en tant qu'enseignant.
Bien, d'abord le châtiment corporel est interdit au Mali dans les années 92 par le gouvernement. Malgré l'interdiction, la pratique continue d'exister dans un grand nombre d'écoles publiques et privées. Donc, pour vous dire que je suis parfaitement d'accord de cette pratique. Il faut menacer certains élèves avec un coup de fouet pour qu'ils puissent bien travailler. Mais cette menace ne se fait pas avec modération. 95% des enseignants pensent bien que cette pratique est très utile dans les écoles. Donc c'est grâce au coup de fouet que beaucoup ont pu travailler jusqu'à décrocher leur diplôme. Vous voyez actuellement les enfants, surtout dans les petites classes, une classe de base, les enfants n'ont pas de niveau. On peut même avoir certains lycéens qui ne peuvent même pas construire une phrase sans faire des fautes. Donc c'est grâce au coup de fouet.
Vous-même, Khalifa, oui. au quotidien, vous fouettez vos élèves.
Oui, mais pas tous les élèves. Il y a des élèves qui travaillent très bien, qui font tout ce que le maître les demandes.
Mais ça veut dire que des élèves qui n'ont pas le niveau, qui n'apprennent pas leurs leçons, qui n'ont pas les résultats que vous attendez, ça veut dire que ces élèves-là, par exemple, peuvent être fouettés, puisque c'est le mot que vous employez, tous les jours par vous-même.
Non. Il y a des élèves qui n'ont pas le niveau. On les aide à avoir le niveau. Mais il y a des élèves qui ont le niveau, mais qui refusent de travailler. Donc ce sont ces élèves-là qui méritent le coup de fouet. Il faut qu'on les contraint à travailler.
Qu'est-ce que vous prenez pour fouetter vos élèves, Khalifa?
Bon, un petit bâton ou une cravache. Mais c'est ce que je vous ai dit au début. Cette menace, c'est fait avec modération.
Que disent les parents?
Oui, mais c'est ce que je dis. 95% des parents partagent cet avis. Parce que beaucoup de parents viennent nous demander vraiment de faire tout pour que leurs enfants puissent bien travailler. Parce qu'à la maison, ils refusent aussi. Ils n'ont pas peur de ses parents. Donc le seul moyen pour les parents, c'est de venir voir les maîtres pour contraindre leurs enfants à travailler et à apprendre les leçons.
En somme, vous nous dites que vous ne respectez pas la loi et le règlement au Mali et que vous ne pouvez pas faire autrement.
De respecter la loi Oui, mais beaucoup, comme beaucoup d'enseignants, c'est ce que j'avais dit. Même si le châtiment corporel est interdit par le gouvernement, il faut qu'on le fasse.
Ferdinand Ezenbé, alors restez en ligne avec nous, Khalifa. Donc vous êtes au Mali, vous êtes un enseignant, vous êtes donc confronté, vous savez de quoi vous parlez. Ferdinand Ezenbé est psychologue, il vous répond.
Oui, alors je pense d'abord qu'il y a plusieurs manières de punir un enfant et que la meilleure manière n'est pas de lui taper dessus. Parce qu'un enfant sur lequel on tape dessus, il encaisse une violence et cette violence-là, il la répétera sur d'autres enfants. Et plus tard, quand il sera grand, il va penser que la seule manière d'être en rapport avec les autres, c'est leur taper dessus. Et cette violence, on la retrouve après dans le milieu familial. Donc, on apprend par un enfant avec la violence. Ils apprennent sous la contrainte, mais ne retiennent pas grand-chose.
Ça, ce sont les conséquences sur le psychisme de l'enfant, sur les mécanismes d'apprentissage de l'enfant. Quelles sont les conséquences de la violence?
Mais honnêtement, la violence est détruite plus qu'elle construit. Un enfant ne retient pas à cause de la violence. Il faut que l'enfant ait l'amour de l'école. Il faut qu'il ait l'amour de ce qu'il apprend. Et après, spontanément, il va être mieux. Si les enfants l'apprennent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas l'amour dans ce qu'on leur transmet.
L'amour de ce qu'on transmet, ça vous parle ou pas, Khalifa, vous?
L'amour de l'école.
Du savoir, quoi.
L'amour du savoir.
Oui.
Mais oui, c'est ce que je dis. Il y a des élèves qui ont vraiment une intelligence vraiment très élevée. Mais c'est la paresse qui les domine. Il faut qu'on trouve vraiment une solution à ça. Bon, la seule solution, c'est la cravache.
À vos yeux, c'est la seule solution.
Parce que, on n'utilise pas directement la cravache. On donne des conseils aux élèves. Vraiment, on fait tout pour qu'ils puissent apprendre. Et même souvent, on donne des cadeaux aux élèves. Mais moi qui suis, chaque jour, j'achète des cadeaux aux élèves pour les encourager à travailler. Mais il y a des élèves aussi qui chôment, qui ne viennent pas à l'école alors qu'ils ont quitté leur maison.
En somme, pour les cas d'élèves pour lesquels vous ne savez plus comment vous y prendre, à ce moment-là, effectivement, vous utilisez la cravache ou la chicotte ou le fouet, comme vous le dites. Merci, Khalifa, pour votre témoignage. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Je vous rappelle le numéro de téléphone au 33 1 84 22 71 71. Je rappelle aussi que les châtiments corporels constituent une violation de l'article 21 de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants, charte ratifiée par 47 États membres de l'Union africaine. Et en Afrique, à ce jour, on a seulement 6 États qui ont interdit les châtiments corporels des enfants dans tous les cadres, c'est-à-dire y compris au foyer. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs en Europe. Il y a des pays comme en France où on n'interdit pas les châtiments corporels à l'intérieur du foyer. Et parmi eux, il faut quand même noter le Togo, le Cap-Vert et le Congo-Brazzaville. Je vous rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Nous accueillons un voisin mauritanien de Ouagadougou. Bonjour Fadel, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel. Alors moi, quand j'étais enfant, j'allais à l'école comme tous les enfants normaux. Et j'avoue que je le faisais avec beaucoup de difficultés parce que j'avais peur d'y aller, affronter cet enseignant qui me donnait plus de coups que de leçons et me faisait plus de mal que du bien avec son bâton ou sa cravache à la main. J'en ai souffert avec beaucoup de blessures dans le dos ou au bras. Et pour ce faire, je me rappelle très bien, il me demandait de fixer le front sur la table ou alors de m'allonger et deux personnes attraper les mains et deux autres attraper quand même les jambes. On appelait ça le parcade. Et il te frappait devant tes camarades de classe. Tu as beau crier, mais personne ne te vient à l'aide. C'est ce qui m'est arrivé. En tout cas, jusqu'au jour où je me suis retrouvé à l'hôpital, j'avais mal partout, franchement, et je ne pouvais pas me tenir debout. Je suis resté couché au lit pendant quelques jours.
Oui. Donc hospitalisé après une agression particulièrement violente, quelle était l'attitude de vos parents? Que disaient-ils?
Bon, franchement, quand j'expliquais quand même, quand je montrais mes blessures à mes parents, franchement, ils n'étaient pas du tout contents de la réaction quand même de l'enseignant. Ils ne comprenaient pas. Franchement, ils m'ont accompagné voir l'enseignant ou bien le directeur de l'école. Il a discuté avec eux sur cela quand même. Bon, franchement.
Mais ils se sentaient relativement, ou ils étaient relativement impuissants par rapport à cette situation, Fadel?
Ben oui. Il pouvait rien faire quand même, parce que le directeur même, à un moment donné, défendait son enseignant quand même, hein, qui utilisait ses pratiques. Mmh. Il disait que c'était la seule manière quand même de faire passer le message aux apprenants.
Est-ce que vous avez abandonné vos études à cause de cela, des coups?
Si, quand même, par crainte quand même d'y aller, de me faire humilier, parce que ça ne s'arrêtait pas seulement à l'école. Mmh. Quand on enseigne à te frapper, une fois dehors, en dehors de l'école, il y a tes camarades qui se moquent de toi, et puis franchement, c'est pas joli. À cause de cela, quand même, j'ai pas pu supporter quand même de souffrir comme ça. À la fin, quand même, j'ai tout laissé tomber.
Ouais. Enfin, en tout cas, vous, tout laissé tomber, mais vous parlez un français remarquable. Vous êtes menuisier. Votre témoignage est très courageux. Merci de nous avoir appelé. Fadel, juste avant qu'on se quitte, vous auriez un message peut-être à faire passer sur les ondes de RFI chez 7 milliards de voisins aux enseignants qui disent que pour le moment, ils n'ont pas trouvé d'autres solutions?
Si, moi, je dirais quand même qu'il y a toujours des solutions d'enseigner quand même autre quand même que faire recours à la violence. Oui.
Est-ce que la violence a disparu de votre vie aujourd'hui?
Non. D'ailleurs, je vous dis une chose. Quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai croisé cet enseignant qui m'avait enseigné à l'école fondamentale qui aussi me frappait. Franchement, j'ai pas eu le courage même d'aller le saluer, et c'est quand même, je ne le regrette pas, parce que quand je l'ai vu, ce qui remontait en moi, c'est tout quand même cette colère que j'avais accumulée au fondement. Mmh.
Merci Fadel pour votre appel. Je voudrais qu'on prenne hors ligne Ahmed, qui a 26 ans, qui est étudiant, qui est à Lomé au Togo. Je le disais d'ailleurs, le Togo qui est un des tout premiers pays à avoir interdit non seulement les châtiments corporels à l'école, mais dans tous les cadres. Ahmed, vous êtes étudiant aujourd'hui. Vous avez été battu à l'école primaire. Vous en gardez quel souvenir?
Oui, merci Manuel. Quand j'étais au groupe mère, à chaque fois que je vais à l'école et qu'on me donne des exercices, lorsque je les traite, je reviens, je n'ai pas de problème. Mais si le lendemain je venais à l'école et que je ne les traite pas, l'enseignant me frappait. Mmh. Et cela, c'est aujourd'hui que moi j'ai compris le bien fondé de ces punitions. Chaque fois que je revenais à la maison, je faisais tout pour éviter qu'on me frappe, de traiter mes exercices avant de retourner à l'école. Donc moi je trouve que et bannir le bâton dans le système éducatif sera quand même un handicap pour l'éducation de nous jeunes aujourd'hui. Il faut quand même qu'on limite, au lieu de bannir carrément le bâton. Mmh. Le bâton, c'est un correcteur, mais pas une manière de châtier l'enfant.
Mmh. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec le témoignage de Fadel avant, qui lui a abandonné l'école en raison de la violence à l'école?
Oui, c'est ça, j'ai dit, il faut qu'on limite ça. Il fallait pas quand même qu'on tape jusqu'à ce que l'enfant saigne et autres. J'ai bien dit ça. Il faut qu'on limite la manière de punir.
Ouais,
faut qu'on fasse comprendre l'enfant que non, c'est parce que tu as fait tel que je t'ai fait ça.
Ouais. C'est ce qui vous a fait travailler, entre autres. Merci Ahmed pour ce témoignage, Ferdinand Ezembe, avant qu'on rende l'antenne pour le flash, par rapport à ces deux témoignages, ces deux façons de voir et d'avoir vécu la violence à l'école.
Oui, alors je pense que la violence, sous aucune manière, n'est acceptable pour un enfant. Si on pose la question à un enfant au moment où il est battu, il ne dirait jamais c'est bien pour moi. Il peut le dire.
Ah, mais il vient de le dire, là, rétrospectivement.
Oui, rétrospectivement, 15 ans après, mais au moment où il subissait ses coups, il repartait chez lui, il était triste, il ne disait pas « je suis content d'être battu ». Donc il faut vraiment se mettre à la place d'un enfant.
On va justement, après le flash, essayer de comprendre comment pourraient faire les enseignants autrement à l'école avec leur classe, souvent surchargée. Vous restez avec nous, Ferdinand SMB, suite des débats sur les châtiments corporels, dans un peu plus de 3 minutes, avec vos appels au 33 1 84 22 71 71.
« 7 milliards de voisins, on est ensemble. »
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons aujourd'hui éducation, comme chaque vendredi, avec un sujet qui suscite pas mal de discussions, les châtiments corporels à l'école. Quelle est la situation dans votre pays? La chicotte est-elle inévitable, notamment dans les pays où les conditions d'enseignement sont difficiles? Vous êtes nombreux à relier la violence, les châtiments corporels et les conditions difficiles d'enseignement pour vous en tant qu'enseignant. Et puis sinon, comment faire autrement? Faut-il plus de lois, plus de contrôles, notamment de la part des directeurs d'école, des inspecteurs? Faut-il sanctionner les enseignants qui frappent leurs élèves? Et puis, quelles propositions aussi pour enseigner autrement dans la salle de classe? On en discute avec vous, Ferdinand Ezembe. Vous êtes psychologue, fondateur de l'association Afrique Conseil en France, et vous travaillez régulièrement sur le continent africain avec des travailleurs sociaux. Je rappelle le numéro de téléphone pour les voisins et les voisines. On ne vous entend pas beaucoup d'ailleurs, les voisines, hein. Vous avez bien une opinion sur le sujet, surtout si vous êtes mère de famille. 33 1 84 22 71 71. Alors on a contacté de nous-mêmes au Sénégal le président d'une association. C'est l'association L'École Instrument de Paix au Sénégal. Bonjour, salut Oussar.
Ah, bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Thiès, hein, donc non loin de Dakar. Vous êtes à la retraite. Vous avez fait toute votre carrière comme enseignant, comme proviseur de lycée. Je rappelle que les châtiments corporels à l'école sont interdits par la loi et par un décret, hein, au Sénégal, au moins jusqu'à, pour les élèves, au moins jusqu'à l'âge de 14 ans. Mais c'est un fait. Il faut le constater à la lecture, notamment de vos témoignages sur les réseaux sociaux. À vous tous, les enseignants ne sont pas toujours d'accord. Alors, comment faites-vous? Comment discutez-vous avec les enseignants?
Merci Emmanuel. Je crois que les châtiments corporels existent au Sénégal, un peu partout en Afrique. Et en tant qu'effectivement les auditeurs, on se rend compte qu'ils sont partagés. Il y a bien sûr un bon nombre qui sont qui acceptent effectivement les châtiments corporels. D'autres veulent changer, veulent utiliser effectivement d'autres techniques, d'autres méthodes. Alors, à l'école instrumentée, nous nous efforçons, depuis la création de l'association, de lutter contre les châtiments corporels. Et nous nous disons effectivement qu'il faudrait qu'il y ait des conditions d'apprentissage sans peur, d'abord. Et un peu la mise en pratique de l'objectif numéro 8 du mondial d'action de l'île.
Je suis désolée, la ligne téléphonique est en train de se dégrader, Salih Oussar. Nous allons essayer de vous rappeler. Nous sommes en ligne avec Ibrahima qui est à Nioro au Sénégal, directeur d'école primaire. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Est-ce que c'est Ibrahima ou Ibrahim, votre prénom d'ailleurs? Je voudrais pas écorcher.
Ibrahima.
D'accord.
Ibrahima.
Soyez le bienvenu Ibrahima chez 7 milliards de voisins. Alors vous, en tant que directeur d'école primaire, vous êtes au courant des directives du gouvernement, de ce que disent les textes contre les châtiments corporels à l'école. Que se passe-t-il dans votre école?
Oui, c'est comme partout ailleurs, comme vient de le dire l'auditeur qui vient de parler tout à l'heure. Donc, le châtiment corporel est interdit et par la loi et par la législation scolaire au lycée au Sénégal. Mais quand même, il y a beaucoup de difficultés pour les directeurs d'école pour faire appliquer cette interdiction. Et souvent, c'est des problèmes entre les parents d'élèves et les enseignants. Chaque jour, il y a des problèmes, il y a des interventions à faire. Mais seulement, il faut dire que tous les parents ne sont pas d'accord contre cette interdiction de châtiment corporel. Il y a des parents qui viennent à l'école nous encourager, nous dire mais écoutez, mon enfant, quand s'il n'apprend pas ses leçons, s'il ne fait pas correctement ses devoirs, il faut le punir. Par contre, il y a d'autres qui s'épousent et qui vont quelquefois jusqu'à menacer de porter plainte au niveau de la justice.
Donc vous êtes alors finalement pris en étau entre des parents qui ont des points de vue différents et pris en étau entre les parents et puis ce que disent les circulaires du gouvernement sénégalais finalement.
Oui, finalement. Et les enseignants, malheureusement, ils sont très réticents aussi pour appliquer cette disposition-là. Parce que le constat, c'est que si les enfants ne sont pas punis, ici en tout cas chez nous, ils n'apprennent pas leurs leçons.
Donc,
mais attendez, vous avez des chiffres parce que votre école a été ciblée, je crois, avec dans un groupe d'écoles hein, pour lutter contre le phénomène des châtiments corporels à l'école, notamment par l'ONG Plan. Hein. Donc, vous êtes tenu de tenter de faire autrement. Quels sont vos résultats scolaires?
Bon, si Plan a ciblé au Sénégal 18 écoles comme échantillon, donc chaque année, ils viennent faire des évaluations par rapport aux châtiments corporels. Mais seulement, il faut dire que les évaluations, quand même, ne donnent pas de bons résultats. Oui, dans mon école, à chaque fois qu'ils viennent évaluer, ils s'adressent d'abord à un groupe d'enseignants, ils s'adressent à un groupe d'élèves, puis ils s'adressent aux parents d'élèves, donc séparément. Donc, c'est pour mieux faire l'évaluation, pour se rendre compte, effectivement, si à l'école, on applique le châtiment corporel ou pas. Et les résultats à l'école ne sont pas bons. Il faut le dire. S'il n'y a pas de châtiment corporel, les enfants n'apprennent pas. C'est comme ça.
Je crois que votre position est très claire, hein, Ibrahima. Position d'un directeur d'école sur le terrain à Nioro, au Sénégal. Ferdinand Ezembe, psychologue camerounais, dans le studio de RFI.
Oui, mais je pense qu'il y a quand même aussi à interroger les méthodes pédagogiques. Je pense qu'il y a beaucoup de manières d'apprendre aux enfants, de leur faire à aimer l'école autrement qu'en leur tapant dessus. Et il y a beaucoup d'expériences. J'ai travaillé avec des anciens au Mali dans une école primaire populaire où les anciens ne tapent pratiquement plus sur les enfants.
Avec combien d'élèves dans la classe?
Ils ont environ 60-70 enfants par classe. La première année, au départ, ils frappaient sur les enfants. Mais après une intervention qu'on a eue avec eux, ils ont réfléchi et sont même persuadés que ce n'était pas la meilleure manière. Et les résultats sont meilleurs parce qu'il y a vraiment des enfants qui viennent à l'école et aiment apprendre sans la peur au ventre qu'ils seront tapés par les enseignants. Je pense qu'il faut que les enseignants eux-mêmes soient convaincus qu'on peut transmettre un savoir à des enfants sans leur taper dessus.
Alors justement, il faut qu'on fasse des propositions concrètes, hein, parce que là, vous l'entendez, les directeurs d'école ne demandent qu'à vous croire, mais ils voudraient aussi avoir des résultats concrets. Alors d'abord des pistes, des outils, et ensuite voir les résultats des élèves. Aliou Sarr, on vous a récupéré au téléphone, vous êtes président de l'association École Instrument de Paix au Sénégal. Rebonjour Saliou. Je voudrais très rapidement que vous nous disiez quels sont les conseils concrets, les outils que vous donnez aux enseignants pour travailler autrement avec leurs élèves en dehors de la menace de la violence.
Alors concrètement, nous nous disons effectivement qu'il faut, comme disait effectivement notre ami camerounais très tôt, des conditions d'apprentissage sans peur. Je crois que c'est extrêmement important. Et pour cela, il faudrait bien sûr que la classe soit accueillante. Il faut que les enseignants également aient un regard positif inconditionnel. Il faudrait effectivement que l'enfant apprenne avec plaisir. Ça, c'est très, très intéressant. Parce que je crois que notre ami l'a dit, moi, je veux beaucoup, beaucoup insister là-dessus. Parce que si l'enfant n'aime pas ce qu'il fait, s'il ne prend pas de plaisir à ce qu'il fait, il ne peut pas, bien sûr, réussir. Et donc, ça, je crois que c'est très, très important. Ensuite, il faudrait une discipline positive. Et cette discipline positive, je crois qu'il faut l'instaurer en amenant effectivement une société du droit. Je veux dire par là qu'il faut des règles que tout le monde doit élaborer et qu'elles soient applicables effectivement aux enseignants, aux élèves, et amener ainsi, je crois, l'élève et l'enseignant même à distinguer, surtout l'enseignant, distinguer la faute de l'erreur. Parce que pour une faute ou bien pour une erreur, on est frappé. Il faudrait bien sûr que l'enseignant puisse bien sûr, pour la faute, amener l'élève à réparer. Oui, à réparer.
Réparer avec quoi, par exemple? En faisant quoi?
À réparer, par exemple, l'élève qui est en retard, il peut réparer. Il peut, par exemple, donner de son temps. Ben voilà, il peut, par exemple, donner de son argent. Il peut réparer.
Ah oui, vous voulez rançonner les élèves?
Non, on ne rançonne pas les élèves. Non. Parce que la réparation conçoit la responsabilité, n'est-ce pas? Elle permet effectivement à l'enfant de se réparer, même de se préparer pour l'avenir. Enfin, conçoit la responsabilité. Je crois que c'est extrêmement important. Et peut-être qu'on n'arrivera pas jusqu'à demander à l'élève d'amener de l'argent, mais à ce qu'il donne de son temps.
Ah bah ça c'est sûr, les parents vont préférer la chicotte, hein, je vous le dis tout de suite. Mais alors très concrètement, un élève qui n'apprend pas ses leçons, ça c'est vraiment le cas typique, les enseignants ont besoin d'avoir une réponse immédiate.
Oui, qui n'apprend pas ses leçons, c'est-à-dire peut-être qu'il n'a pas compris, il faudrait peut-être changer de méthode. Dans une classe, quand on trouve effectivement qu'un enfant n'a pas compris à faire une erreur, ce que je disais tantôt, on le frappe effectivement. Or, l'enseignant doit se remettre en question, essayer de trouver d'autres méthodes pédagogiques, effectivement, pour que cet enfant la comprenne. Et c'est ça le problème. Et là, à ce niveau-là, on peut trouver beaucoup de petites recettes.
Alors justement, Saliou Sarr, on va laisser la parole à Ferdinand Ezembe pour des pistes concrètes d'action. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été en ligne avec nous. Il y a des parents également qui veulent prendre la parole depuis le début de l'émission. Ferdinand Ezembe, quelles sont les pistes d'action concrètes qu'on peut proposer aux enseignants qui sont d'accord pour réfléchir, pour faire autrement?
Il faut que les enseignants se fassent aimer par leurs élèves et pas qu'ils fassent peur à leurs élèves. Donc ils doivent
eux ne parlent pas de peur, ils parlent de respect.
Non, mais ils font peur à leurs élèves et les enfants qui arrivent avec une peur à l'école ne peuvent pas bien assimiler. Ensuite, il faut que leur donne d'autres méthodes de punition.
Oui, lesquelles?
Oui. Il y a des choses très simples. Il y a la consigne. Un enfant qui n'a pas appris ses leçons peut être consigné. On peut lui demander de rester une heure le soir pour balayer, pour faire d'autres choses, qu'être tapé dessus. Aussi, il faut que les enseignants comprennent le contexte dans lequel vivent leurs élèves. Il y a des élèves qui rentrent à la maison, ont des travaux ménagers à faire et n'ont pas le temps d'apprendre les leçons. Et donc, c'est une double punition pour un enfant de venir à la maison, de faire les travaux ménagers et de repartir ensuite à l'école, être tapé parce qu'il n'a pas appris, alors qu'on sait qu'à la maison, les parents ne lui ont pas donné des conditions pour apprendre. Donc, il faut former une formation de psychologie aux enseignants pour mieux prendre un enfant comme une personne avec sa protection, avec ses désirs et ne pas systématiquement recourir à la punition corporelle, physique de l'enfant.
Nous repartons tout de suite au standard, si vous le voulez bien, Ferdinand Ezembe, pour que vous puissiez dialoguer. Nous accueillons Enoch au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Enoch, vous êtes à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Vous êtes un parent en colère, je crois.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins. Je suis un parent indigné de cette forme de terrorisme scolaire que nous avons dans nos écoles en RDC. J'ai mes trois filles qui sont dans une même école. Une qui a 9 ans, l'autre a 7 ans et la troisième a 6 ans. Celle qui a 9 ans, qui est en 5e primaire, elle est venue me dire, papa, on m'a fouetté à l'école. Je lui ai carrément dit qu'il était inadmissible que l'école soit un sujet de fouet positif. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle puisse se calmer et qu'elle puisse vraiment bien s'appliquer pour que de telles choses ne lui arrivent pas.
Est-ce que vous êtes allé voir le directeur de l'école de vos filles?
Non, comme c'était la première fois, je ne suis pas allé. Mais si une telle chose se répète, je suis dans l'obligation de voir le directeur. Et de réagir, parce que ce n'est pas possible.
Merci pour
moi-même, j'en ai été victime.
Oui, et vous n'avez pas envie que, justement, que l'histoire continue pour vos trois filles scolarisées. Merci beaucoup pour ce témoignage, Enoch. Vos mots sont forts, vous parlez de terrorisme scolaire, vous êtes un parent indigné. Et je rappelle qu'en République démocratique du Congo, le Code de la protection de l'enfant de 2009, article 57, dispose que la discipline dans les établissements scolaires doit être administrée avec humanité. Il n'y a pas d'interdiction explicite des châtiments corporels, mais il y a d'autres textes qui bannissent la torture sur les enfants, etc. Alors évidemment, les textes sont pas toujours très clair. Néanmoins, il y aurait des textes pour faire respecter la non-violence à l'école, hein, Ferdinand Ezembe. Qu'est-ce que vous conseillez pour les parents qui sont indignés comme lui?
Alors, d'abord, il y a les associations de parents d'élèves. Il faut dire que les parents d'élèves s'organisent pour intervenir sur la manière dont leurs enfants sont traités dans les écoles. Et même ici en France, c'est très important le rôle que les associations de parents d'élèves ont eu pour améliorer la situation dans les écoles. Et aussi, comme vous avez dit avec raison, les parents doivent aller voir les enseignants, et les enseignants n'ont pas tous les pouvoirs qu'ils veulent sur un enfant. Être enseignant ne veut pas dire je peux faire ce que je veux avec un enfant.
Vous écrivez dans un livre que vous avez publié il y a maintenant plusieurs années, l'enfant africain et ses univers, que longtemps les parents ont confié l'enfant à l'école, mais vraiment confié au sens très fort du terme, c'est-à-dire fais de mon enfant quelqu'un de savant, je te fais entièrement confiance. Ça, ça a été, c'est, on est très imprégné de cela sur le continent africain, du côté des parents.
Oui, oui, mais alors, mais il faut aussi de l'amour. Je donne mon enfant à quelqu'un par amour, c'est pas pour que cette personne soit violente envers cet enfant. Et souvent, on a retenu que le côté violent, alors que dans une relation de confiance, c'est aussi une relation d'amour et de protection des enfants.
Et l'enseignant violent ne respecterait pas le contrat dans ce cas. On accueille une mère d'élèves, Yolande à Bamako. Bonjour Yolande, vous êtes une maman.
Bonjour Emmanuel.
Oui, on vous écoute Yolande.
Oui, en fait, c'est pour un témoignage. Oui, je suis contre le châtiment. Parce que quand on parle des adolescents, on oublie les plus petits. En fait, j'ai ma fille de 2 ans que j'avais mis à l'école maternelle.
Oui.
Bon. La maîtresse était un peu impulsive avec les enfants. J'entraînais correctement l'enfant à la maison, mais une fois qu'elle arrive à l'école, elle est stressée, elle est frustrée par la maîtresse. Quand j'ai vu ce constat, je me suis présentée à l'école. J'ai donc rencontré la maîtresse. J'ai dit, bon, quand l'enfant rentre à la maison, elle est plutôt dégagée. L'enfant connaît l'alphabet français, elle récite comme elle écrit.
À 2 ans?
Oui, et quand elle est à l'école, c'est tout le contraire. Parfois, l'enfant rentre avec les doigts et épluchés.
Aïe.
Quand je demande, elle me dit c'est la maîtresse, mais je ne crois pas. Jusqu'au jour où la maîtresse a donné le devoir, l'enfant a fait son devoir et elle a écrit sur le cahier, n'aidez pas l'enfant à faire son devoir. Moi, je n'aide jamais les enfants à faire leur devoir.
Attendez, là, on parle d'une petite fille de 2 ans. On parle de devoir pour une petite fille de 2 ans à l'école maternelle qui devrait faire juste des jeux éducatifs, en principe, hein, Ferdinand Ezembe.
Oui, mais c'est tout le problème du rapport de ces enseignants très mal formés pour s'occuper de ces enfants qui n'ont pas de... Je suis désolé, elles sont pas formées pour s'occuper des enfants. Si à cet âge-là, elles donnent des devoirs, si elles leur tapent dessus, il faut vraiment, vraiment revoir la formation et la psychologie de ces enseignants.
Est-ce que parfois, les enseignants n'ont pas aussi une pression des parents, notamment pour la scolarisation préscolaire, où les parents s'imaginent que l'enfant va prendre de l'avance ainsi
Non, mais, non, il n'y a pas de pression des enseignants, c'est parce que, en général, ils croient que la seule manière de bien enseigner, c'est de taper sur les enfants, c'est de faire une violence. Or, tout le monde, comme c'est très intéressant, cette expérience, la jeune fille à la maison, elle est intelligente, elle peut réciter l'alphabet et arriver en classe, elle est paniquée, elle est stressée par cette terreur de l'enseignante. Quoi.
Nous accueillons Maëk qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je rappelle le numéro de téléphone, mais il nous reste vraiment quelques minutes. 33 1 84 22 71 71. Bonjour Maëk. Soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins.
Oui, bonjour Emmanuel. En fait, moi, mon témoignage est assez simple. Ma cousine est morte il y a quelques semaines parce qu'un professeur l'a tapé et a causé sa mort. C'était à Goma et ça a causé quelques troubles là-bas. Okay. Elle s'appelle Déborah Omari. Je crois que sa mort puisse servir de leçon à tous ces professeurs qui pensent c'est une vertu de frapper les enfants.
Ouais, j'ai lu effectivement un témoignage en début d'émission d'une enseignante qui a cité le cas de votre cousine décédée, donc battue à mort, et qui a provoqué des émeutes lycéennes à Goma.
Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est venu en retard. Un professeur qui pensait que c'est une vertu de taper les enfants, parce qu'il était venu plusieurs en retard, les a alignés et a commencé à taper les coups de chicotte. Arrivé à elle, pendant qu'elle a tapé les coups de chicotte, elle a eu très mal, elle a tenu la chicotte. Alors le professeur, ce qu'il a fait, il a essayé de donner une double patte, comme on dit, et elle est tombée sur une pierre, et au lieu de s'arrêter là, il a continué à donner des coups parce qu'il était fâché qu'on l'ait même résisté. Donc après, on l'a mis à l'hôpital, donc on a conseillé son décès. Entre-temps, évidemment, ça a fait des troubles à l'école et même dans la ville. Le préfet de discipline qui a frappé a évidemment fui la ville, a fui la ville. Et voilà. Donc maintenant, par rapport à ça, une fille est morte. Pourquoi ? Parce qu'on voulait lui apprendre la peur. Et je dis, quand on fait des trucs pareils, c'est quoi ? C'est apprendre à l'enfant d'avoir peur, ça devient quoi comme citoyen? Quelqu'un qui a peur, qui va commencer à fonctionner dans un travail avec un boss, qui va aussi penser que en gueulant, en descendant ses employés, ou bien une citoyenne qui, au lieu de voter pour un gouvernant parce qu'elle l'aime, va voter pour un gouvernant parce qu'elle a peur, je ne pense pas. Donc voilà, moi je pensais, je réagis pas spécialement, mais je pense qu'en son nom, elle s'appelle Déborah Omari, voilà, j'aimerais lui rendre hommage. Et que ça serve de leçon à toutes les autres personnes qui pensent que voilà, parce que je pense que les gens disent que oui, c'est bien que qu'on m'ait frappé par chez eux, mais je pense que c'est plutôt nostalgie par rapport à leur jeunesse. Je pense pas que les coups puissent être une justification. Pourquoi? Parce que les élèves, faut leur apprendre le respect de soi. De faire les choses, non pas parce qu'on a peur qu'on les frappe, mais par rapport à leur bien. Parce qu'ils pensent que c'est pour leur bien qu'ils étudient, c'est pour leur bien d'arriver à l'heure à l'école.
En tant que cousin, Maëk, de Déborah, qui est morte dans des conditions terribles, vous attendriez quoi aujourd'hui de la part du gouvernement, du ministère de l'Éducation en RDC, de la part des parents, de la part des enseignants? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils changent dans l'immédiat?
D'abord, j'aimerais d'abord qu'on puisse, qu'ils puissent d'abord écouter cette histoire. Parce que, je veux dire, quand on frappe, on ne se rend pas compte des effets, des conséquences. Parce que même le monsieur, c'est vrai que c'est l'agresseur, mais sa vie, elle est en l'air, il a sûrement une famille qu'il doit nourrir. Mais maintenant qu'il est en fuite, il ne veut pas nourrir cette famille. D'accord? En frappant, oui, il pouvait se penser que voilà, simplement des baffes, et que voilà, tant que c'est pas un revolver ou un couteau, ça ne va pas tuer, que l'enfant finalement a bien appris. Mais en frappant, vous ne savez pas, l'enfant peut se cogner. Pourquoi? C'est le cas de Déborah. Il ne pensait pas qu'en tapant comme il a tapé, il a tué. Maintenant, elle est morte. Sa vie est en l'air. La vie du professeur aussi est en l'air. D'accord? Donc moi, ce que j'ai dit, et pour répondre par rapport au gouvernement, c'est faire des campagnes. Des campagnes, parce que, entre guillemets, c'est aussi, comment dirais-je, aider la population de savoir ça. Parce que la population, en frappant une élève, c'est eux qui représentent le futur. En les frappant, vous donnez quoi? C'est des gens qu'on aura enseigné la peur dès le plus jeune âge. C'est les gens qui ont encore des preuves de faire des grèves.
Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a quand même une prise de conscience, hein, mais que les enseignants sont pas forcément dogmatiques, idéologiques sur ces questions-là, qu'ils souhaiteraient faire autrement. Mais là, Ferdinand Ezembe, vous nous le disiez, il y a un grand point d'interrogation, il y a une demande d'être mieux formé. Merci beaucoup, hein, d'avoir en témoigné, en tout cas, et d'avoir rappelé ce tragique événement du mois dernier, décembre 2014, ce qui est arrivé à votre cousine à Goma, qui est donc morte sous les coups de son enseignant, du directeur des écoles, des études, pour être plus précis, à Goma, à l'est de la RDC. 33 1 84 22 71 71. Je voudrais qu'on termine avec une enseignante, Cécile Abamako. Vous souhaitez vous adresser à Ferdinand Ezembe et lui poser des questions, je crois.
Oui, ok, bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Cécile, j'appelle de Bamako.
Bonjour.
Bonjour aux 7 milliards de voisins. Ok, la question que moi je voudrais poser, bon, en fait c'est juste pour dire que les textes interdisent aux enseignants d'utiliser le châtiment corporel là. Mais moi je pense que les enseignants ne sont pas aussi formés pour enseigner sans le fouet.
Sans le fouet, okay? Enseigner donc, sans le fouet, oui, vous ne savez pas faire. Fouet. C'est ce que vous dites, Cécile, c'est ça.
Oui, oui, pas moi certainement, mais les enseignants de façon générale. Ok. Est-ce qu'on peut leur donner des propositions? Est-ce qu'on peut leur faire des suggestions pour qu'ils puissent enseigner vraiment tout en évitant le fouet? Parce que c'est ça leur souhait aussi.
Ouais. Alors on va terminer là-dessus. Hein. Je crois qu'il faut qu'on termine sur une note positive, sur ces constats difficiles, Ferdinand Ezembe, et quelques conseils à rappeler élémentaires que peut-être des enseignants pourraient mettre en pratique dès demain en classe.
Il faut que les enseignants se fassent aimer par leurs élèves. Et quand les élèves aiment un enseignant, ils vont pouvoir imiter cet enseignant et ils vont vouloir apprendre tout ce que l'enseignant leur dit. Donc quand vous aimez quelqu'un, ce que vous lui enseignez passe très très bien. Donc arrêtez de faire peur aux élèves. Il faut d'abord que les élèves vous aiment. Donc soyez dans tout ce qui est la séduction, que les enfants aient envie de venir vous voir, qu'ils aiment leur maîtresse. Et à partir de là, tout ce que vous allez enseigner va passer. C'est vraiment une révolution mentale. C'est pas de venir et de taper, de crier sur un enfant. Ça lui fait peur et il n'apprend pas. Si c'est dit, je vais apprendre pour faire plaisir à ma maîtresse parce que j'ai envie que ma maîtresse soit contente de moi, alors là, vous allez voir que tout va changer. Vous n'aurez même pas besoin de leur taper dessus. C'est eux qui vont venir vous demander qu'est-ce qu'il faut apprendre.
Soyez donc dans la séduction et puis...
Et puis bon, il faut se former, il faut apprendre la psychologie, si c'est possible, avoir des stages de formation sur la psychologie de l'enfant. Et ce sont des choses très simples qu'on peut faire sans demander trop de moyens.
Continuer à assurer l'autorité, vous dites, oui. Ça demande pas forcément des moyens, il faut quoi, des punitions justes.
Alors, moi, je veux dire que le mot punition et éducation, ça marche pas ensemble. Il faut vraiment retrouver du plaisir. Les enfants doivent apprendre et venir apprendre. Bien évidemment, il y a des difficultés, mais bon, on peut mettre en place, comme je vous ai parlé, des sanctions, du style des consignes. Tu vas rester pour balayer la classe, tu vas t'occuper de faire ceci, de ramener de l'eau en classe et tout ça.
Un élève particulièrement agité, il faut justement lui confier des responsabilités, voilà, bien que ça puisse sembler paradoxal.
Oui. Et même prendre 10-15 minutes à la fin de l'heure pour parler avec cet enfant en lui demandant pourquoi tu n'apprends pas. Et l'enfant peut vous dire pourquoi il n'apprend pas. Quelles sont ses difficultés?
Merci beaucoup Cécile d'avoir posé cette question. Je crois que vous vous êtes fait vraiment une parfaite porte-parole des enseignants qui s'interrogent aujourd'hui sur la façon d'enseigner autrement. Merci à vous Ferdinand Ezembe. Votre dernier ouvrage paru chez Cartala, Les adolescents noirs en France. Et puis auparavant, il y avait aussi un ouvrage extrêmement précieux pour les enseignants d'ailleurs, L'enfant africain et ses univers. Également chez Cartala, merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solars, Didier Cherouz, et puis merci pour toutes vos réactions. Vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr. On se retrouve lundi pour 7 milliards de voisins. On parlera de la politesse. La politesse et les bonnes manières, sont-elles devenues inutiles? Qu'est-ce qui, à votre avis, définit une personne que l'on dit mal élevée? Dites-nous aussi, les voisins, ce qui vous choque dans les manières des autres. Les autres, ça peut être l'étranger, ça peut être celui qui est élevé différemment. Voilà. Je vous donne le numéro de téléphone. Vous pouvez le composer dès maintenant, 33 1 84 422 71 71.